Et voilà, donc Sylla qui quitte en ce moment le studio de Radio Esperanza. Donc vous êtes toujours évidemment à l'écoute de cette radio éphémère du Festival Esperanza. Et dans le courant de l'après-midi, donc là nous on est ensemble jusqu'à quasi 14h pour continuer ces blocs, puisqu'on les appelle ces blocs de 2h, ce sont des blocs. Et celui-ci c'est donc les bulles, bière et champagne. On vous en a déjà parlé beaucoup, on a voulu faire bière et champagne donc comme synonyme quelque part d'une dichotomie riche-pauvre dans nos sociétés. Sylla est bien rentré dedans hein, du coup.
Sylla est super bien rentré dedans, il confirme qu'il est engagé, de toute façon on le sent dans ses paroles, et puis ça fait quelques années effectivement qu'il bouge sur les scènes européennes on peut dire. Donc effectivement, il est engagé. Et moi, une chose sur laquelle je reviendrai bien, si ça t'intéresse, si ça peut intéresser nos auditeurs, c'est tout ce qui concerne la sécurité sociale. J'y englobe les médicaments, les soins de santé, etc. On se lance là-dedans ?
Bah écoute, allons-y. Est-ce qu'on se fait une... Ou on continue, ouais.
On continue ?
Bah absolument.
J'ai lu un article il y a quelques jours qui précédait une émission qui allait être diffusée Question à la Une avec Sylvie Duquenois. Et le sujet, c'était en Belgique, les médicaments coûtent souvent cher, d'ailleurs plus cher qu'en France. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? Comment, vers où ça va aller ? Sylvie Duquenois expliquait qu'ils se sont souvent intéressés, eux, dans un premier temps, dans leurs réflexions, aux nouvelles molécules, celles qui pouvaient soigner des maladies graves et qui aujourd'hui ne parviennent pas encore à guérir, ou y arrivent, mais dans des conditions compliquées comme l'hépatite C. Et c'est très clair, le prix de ces médicaments spécifiques est vraiment en train d'exploser. Or, la maladie explose aussi, donc évidemment, c'est pas le moment pour que les médicaments coûtent plus cher. Et donc, les firmes pharmaceutiques ont pris l'initiative de proposer des prix. Et donc, ils ont le droit. Ils ont le droit d'imposer leur prix sur les médicaments. Et ensuite, c'est le gouvernement qui négocie avec les firmes, puisque c'est l'INAMI, en fait, hein, qui rembourse les médicaments. Donc, l'État doit quand même avoir un premier accord de base. Le problème dans cette histoire, évidemment, c'est que négocier avec les firmes en Belgique, c'est pas simple, puisque l'industrie pharmaceutique a un poids énorme dans l'industrie globale économique de la Belgique. Donc, il faut faire des économies. Et puis, il ne faut pas faire trop d'économies parce qu'il y a aussi des milliers d'emplois qui sont liés. Dans l'article, on parle de 35 000 emplois juste liés à la pharmaceutique. Donc, ça reste énorme. Qu'est-ce qui me semblait important de dire aussi ? Oui, c'est ça, c'est qu'en France, donc là je dévie un petit peu, en France, par rapport à l'hépatite C, la dernière circulaire du mois de juillet, donc le 1er juillet, c'était il y a un mois, disait qu'en 2017, seul un Français sur 100 pouvait se soigner de l'hépatite C. Tellement le médicament et les traitements coûtent cher.
Alors, ce qui est aberrant aussi, c'est que par rapport justement à tous ces vaccins, ces médicaments et tout ça, c'est que dans les... Il y a des vaccins, par exemple, qui peuvent ne rien coûter. Donc, en fait, c'est justement, c'est nouveau, c'est ces firmes pharmaceutiques qui ont le brevet sur des vaccins. Et donc, les vaccins sont vendus. Ici, on va faire totalement, j'invente, hein, 20€ la dose. Et je pense que c'est en Inde où des chercheurs ont trouvé le même vaccin pour la même maladie qui touche beaucoup l'Inde, je ne sais plus laquelle. On peut le développer à, je crois, une histoire comme 5€ si on prend une image. Et en fait, c'est bloqué. C'est complètement bloqué, en fait. Ils ne peuvent pas le commercialiser parce que, justement, c'est un brevet d'une firme pharmaceutique. Et donc, on continue à laisser crever les gens d'une maladie qui pourrait être facilement, peut-être pas éradiquée, mais au moins où les gens pourraient s'en prémunir avec très peu de moyens.
Je ne sais pas si c'est la même maladie du coup, puisque tu n'as pas retrouvé le nom de la maladie, et puis que moi, celle dont je vais parler, je ne retrouve pas le nom non plus, donc comme ça, on est bien, mais c'était aussi en Inde, et c'était par contre l'inverse, il y avait effectivement un médicament qui coûtait hyper cher, ils ont trouvé les molécules, mais sans passer par la firme pharmaceutique, du coup, ils n'ont pas, entre guillemets, de compte à rendre, j'imagine que...
Oui, mais tout un... Oui,
ils ont dû changer un petit truc ou un autre, et finalement, non, sauf que finalement, ils ont fait le médicament.
Oui, mais ils ont essayé, la firme pharmaceutique, je ne sais plus si c'est Pfizer ou Bayer, a essayé de bloquer de toutes les façons possibles.
Et ça a marché pendant tout un temps. Et puis après, je pense que les gens ou les chercheurs du pays ont trouvé les molécules en question et finalement ont pu faire un autre vaccin. Mais là encore, tout n'est pas encore gagné parce que celui que tu disais qui pouvait arriver à quelque chose comme 4-5 euros, c'est pas encore celui-là. Parce que les gens qui le commercialisent en Inde le commercialisent moins cher que Bayer, je pense que c'est eux, mais le commercialisent quand même plus cher qu'à 5 euros.
Oui.
Donc, il touche plus de personnes dans la population, mais il touche pas encore tout le monde. Alors qu'on sait qu'il pourrait coûter zéro.
Et là, c'est là qu'on peut s'étonner, c'est que les soins de santé sont donc soumis aux mêmes règles commerciales et économiques que tous les biens de consommation. Et les soins de santé, c'est pareil, on l'a vu, on le voit actuellement en Belgique avec Maggie De Blocq, la ministre Maggie De Blocq.
Qui ça ?
Maggie De Blocq, qui donc a décidé de faire d'énormes économies au niveau des soins de santé. Donc près de 902 millions d'euros ont déjà été retirés aux soins de santé.
Il faut se rendre compte, hein, je te coupe un petit peu, mais on parle de presque 1 milliard d'euros là.
Oui. Oui, presque oui, parce que c'est quand même, il y a encore pas mal de millions après, mais c'est énorme.
Ouais.
Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le système des maisons médicales.
Oui.
Donc une maison médicale, c'est dans des communes, dans des quartiers, c'est lié aux mutuelles. Et donc, une maison médicale, on s'y inscrit. Une fois qu'on y est inscrit, il faut être fidèle à la maison médicale, donc toujours aller chez les médecins généralistes de la maison médicale. Si vous n'y allez pas, si vous allez chez d'autres, vous payez le prix plein, il n'y a plus de frais mutuels. Enfin, la mutuelle ne vous rembourse pas. Les soins de kiné, c'est la même chose. Et les soins infirmiers, c'est pareil. Après, ils vous proposent aussi d'autres thérapeutes qui sont là, que ce soit gynécologue, dentiste, ophtalmologue. Pas toujours, enfin, ça dépend. Mais bon, bref, il y a vraiment tout un réseau. Et on ne paye que le minimum, en fait. Et pour la médecine généraliste, on ne paye pas en fait. On va chez le médecin, on ne paye pas, mais évidemment, vous payez une cotisation annuelle via votre mutuelle. C'est donc un système qui permet aux plus démunis et c'est pas aux plus démunis,
à tout
juste
le monde, en fait.
Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une famille, les premières économies qui sont faites, c'est sur les soins de santé. C'est-à-dire que les parents souvent vont se sentent mal ou sont malades, vont se soigner par eux-mêmes pour éviter d'aller payer 25 euros chez le médecin, ce qui est énorme aussi. Donc c'est les soins de santé c'est la santé vraiment qui passe la première à la trappe. Quand il faut faire des économies, on évite d'aller chez le dentiste parce que ça coûte un pont, ça coûte une dent. Bref. Donc on évite vraiment les familles pour garder peut-être parfois le peu qu'elles ont, ben on évite d'aller chez le médecin, on se soigne par soi-même. Du coup, les maisons médicales sont là pour justement pouvoir pallier à ces économies de bout de chandelle, mais qui sont hyper importantes parce que les maladies du coup se développent. S'aggrave et finalement on se retrouve de toute façon assez mal. Et voilà, avec les 902 millions d'euros qui ont déjà été retirés aux soins de santé, c'est clair que Maggie De Blocq met à mal les maisons médicales. Et ça, c'est un réel problème. Donc on continue dans une capitalisation du soin de santé où le riche va continuer à se soigner à grands frais et où finalement les couches les plus... Je ne vais pas dire les plus démunis parce que je pense que ça touche encore plus de monde maintenant. On vit dans une société où il y a beaucoup de familles monoparentales, où on fait une chasse aux chômeurs, mais essayer de trouver du travail à Bruxelles, par exemple, quand vous n'avez pas de permis de conduire, quand vous n'êtes pas bilingue, quand vous n'avez pas un diplôme de fin d'humanité, tout simplement. Bref.
Même quand tu as un diplôme et que tu as une voiture et que tu as tout ce qu'il faut.
Pour trouver du boulot,
c'est... Non, du boulot, donc.
Non, mais c'est encore pire. Et donc les maisons médicales sont vraiment mises à mal maintenant. Il y a déjà des maisons médicales à Bruxelles qui n'ont pas encore fermé, mais qui doivent réduire leurs activités. Parce qu'une maison médicale, c'est quoi aussi ? C'est des ateliers cuisine, par exemple. Enfin, je vous donne l'exemple de la mienne.
Ah, c'est chouette. Mais ça, ça va nous apprendre plein de choses. Par exemple, à Libramont, la maison médicale, c'est vraiment 2 médecins, 3 salles et... Une toilette et une salle d'attente. Toi, dans la maison médicale où tu es dans ta
à Saint-Gilles,
dans ta commune
à Bruxelles.
À Saint-Gilles, à...
Et là, il y a des ateliers cuisine où en fait, c'est des ateliers où les gens peuvent aller. Je crois qu'ils payent une histoire comme 2 euros par participation, ou ils peuvent proposer aussi une recette à apprendre aux autres. Il y a également, une fois par an ou 2 fois par an, une journée à la mer qui est organisée pour les familles. Il y a des goûters qui sont organisés, il y a de la gymnastique douce, ils font de l'aquagym, enfin voilà, il y a énormément de... Il y a aussi tout un groupe de réflexion sur parents en difficulté, donc les parents qui se retrouvent, des parents qui se retrouvent et qui parlent des difficultés qu'ils ont avec leurs enfants, qui se donnent des conseils, avec aussi un spécialiste, un professionnel qui... une professionnelle qui est là aussi pour peut-être aider, aiguiller. Donc oui, une maison médicale n'est pas toujours uniquement médical. Je veux dire, voilà, c'est un réseau qui se crée aussi et qui organise d'autres choses. Donc, c'est un lien aussi. C'est quelque chose qui permet des contacts sociaux avec les gens du quartier, avec les gens qui sont peut-être plus isolés aussi.
Oui, du coup, ça crée du lien. Peut-être que la personne que tu vas rencontrer, c'est ton voisin. Tu ne savais même pas que c'était ton voisin. Il a peut-être besoin d'un petit coup de main qui ne va pas te prendre longtemps. Tu peux le faire et vice-versa. C'est vraiment ça, en fait. Les maisons médicales, ici, en tout cas à Bruxelles ou dans les grandes villes, elles sont là, effectivement, comme tu dis, pour le côté médical de la chose, mais aussi vraiment pour le lien, le tissu social. Et puis, les cours de cuisine, c'est peut-être aussi par rapport à l'obésité, pour que les parents et les enfants apprennent à mieux manger. Enfin, c'est quand même quelque chose, du coup, de vraiment réfléchi et de beaucoup plus social que la médecine qu'on nous propose maintenant, quoi.
Voilà. Et donc, c'est mis à mal, mais c'est comme un peu toutes ces initiatives qui sont faites justement pour recréer du lien, pour recréer des choses qui sont directement... C'est pas rentable, hein. Une maison médicale n'est pas rentable, c'est clair.
Une maison de retraite non plus.
Une maison de retraite non plus. Et donc, on est dans toute cette surenchère de moins c'est rentable, moins c'est utile, au point de vue du capital, bien entendu, et on sucre à ce niveau-là.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui travaillent dans ces hôpitaux, que ce soit les... Là, je vais plus parler des infirmiers, des aides-soignantes, parce que je ne m'aventurerai pas à parler des médecins, des chirurgiens dont j'ai pas la vie. Mais plusieurs me confiaient aussi que finalement, l'hôpital étant devenu une entreprise, comme les autres, qui perd de l'argent alors qu'elle est là pour en gagner... que clairement, il sucre sur il faudrait rester avec une personne pour un tel type de service 15 minutes, eh ben, ça va être 12. Parce qu'à la fin, chaque aide-soignant, chaque infirmier aura gagné 3 minutes par-ci, par-ci, par-là. À la fin de la journée, il pourra s'occuper de 5 patients de plus. Et mes amis, en l'occurrence, Baudouin, si jamais il nous écoute, me disaient ça devient insupportable quand tu as envie de bien faire ton métier, quand on a envie, mais aussi quand ça te tient à cœur et quand les patients en ont besoin. En fait, tu n'as pas de choix. Soit tu accordes le temps nécessaire aux personnes qui sont avec toi, mais tu sais qu'à la fin de la journée, il y en a dont tu ne vas pas pouvoir t'occuper. Soit tu vas vite, donc forcément tu négliges des choses. Je l'entendais une fois me dire, comment tu veux, fais l'expérience, enfin que chacun fasse l'expérience chez soi, comment on peut en 12 minutes lever une personne âgée, la réveiller, lui donner ses médicaments, la laver, refaire le lit, mettre un petit peu d'ordre dans la chambre, la faire descendre au petit déjeuner, les 2-3 trucs de médicaments et revenir au 5e étage pour s'occuper de la personne suivante. Je veux dire, à un moment, voilà, même dans la médecine, même dans les hôpitaux, même dans les centres pour personnes handicapées, pour personnes ayant des problèmes, pour personnes âgées, même dans ces centres-là où, en plus de ça, généralement, les gens qui sont placés, leurs familles ou ceux qui sont autour payent bien cher, même dans ce cadre-là, ça devient une entreprise, les gens sont là pour gagner du fric et finalement tout le monde en paye les pots cassés, autant les patients que le personnel soignant de ces hôpitaux.
Et qu'à voir ce qu'ils ont fait avec les femmes qui accouchent, où on a réduit drastiquement le temps passé à l'hôpital et qui... de témoignages de maman, enfin j'ai accouché il y a longtemps, mais c'est utile, enfin, c'est quelque chose, quand on se retrouve avec un bébé dans les bras, on ne sait pas toujours, enfin il faut du temps pour se remettre d'un accouchement, il faut du temps pour savoir, enfin pour que le bébé soit en pleine forme, et là maintenant je crois que c'est deux jours après, c'est bon, rentrer
c'est
chez
ça,
vous.
C'est ça, le troisième jour t'es obligé de partir, ouais. Et alors ça vient aussi de changer par rapport aux césariennes, là dans mes amis il y en a deux qui viennent d'avoir des césariennes là tout de suite, il y en a une qui est partie le quatrième jour au soir et une le cinquième. Je sais pas si on s'imagine une césarienne, donc t'as le ventre qui est totalement
ouvert,
hein, y a pas d'autre mot. Bah, une a une infection et l'autre a des choses dont je vais pas parler ici, mais rien de génial. Et clairement, leurs deux médecins qui sont dans des provinces différentes, donc ils ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, les deux médecins leur ont dit la même chose, à savoir, oui, mais tu sors au bout de 4 jours d'une césarienne chez toi, comment tu veux que ça se passe bien? Tu dois t'occuper de ton bébé, te laver, enfin te lever pour l'allaiter, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Tu viens d'avoir le ventre ouvert en deux, 4 jours avant.
Il y a le père qui est là, parfois, peut-être
Ben, le père ou la deuxième mère, ou l'ami, la copine, le fils, qu'importe.
Non,
mais dans
mais
tous les cas, la personne en question qui devrait être... C'était une blague. La personne en question qui devrait être allongée ne peut plus se le permettre. Et conclusion, d'autres maladies apparaissent, donc finalement d'autres coûts pour la société, pour l'hôpital et pour la personne en question. Et mes copines et mon copain Baudouin, qui est infirmier, me disent, allez jusqu'à me dire... Mais des fois, on se demande si c'est... Enfin, ça va, on va un peu loin. Mais si c'est presque pas fait exprès, quoi. Parce que quelque part, évidemment, les gens qui, de nouveau, ont une maladie après une opération, ça refait fonctionner l'économie. Les gens reviennent.
Voilà, je pense que le sujet, de toute façon, est énorme. Et ces soins de santé et les mesures prises par Maguette de Bloch actuellement en Belgique, ça pourrait faire... En fait, on devrait faire Radio Esperanza toute l'année. On se passe un petit morceau de musique. Merci, Pascal.
Sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et mais y'a ton salaire, on pourra chez Leclerc. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte de nous coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. En attendant le tramway, oui, sois pourri, tais-toi, toi le sapeur-pompier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que son footing au bois, on se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère. Tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, piscine au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère.
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 Où il soit pauvre et tais-toi. Où il soit pauvre et tais-toi. Où il soit pauvre et tais-toi. Où il soit pauvre et tais-toi.
C'était donc les Sales Majestés avec « Sois pauvre et tais-toi ». Donc il y a des paroles fortes hein, comme ça dans cette petite musique, l'air de rien. Et si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp.
Punk hein.
Punk et puis, aussi, et puis aussi rapport à Sarko qui d'ailleurs dans la chanson lui aussi va faire son petit footing au bois, qui disait à un moment bah, si t'es pas content tu dégages. D'ailleurs « Sois pauvre et tais-toi », je pense que c'est assez explicite, c'est un peu comme « pauvre con quoi, ferme ta gueule ». Et toi Gérald, t'es pas un pauvre con et en plus on n'a pas envie que tu fermes ta gueule.
Mais je suis un punk.
Mais
tu vas l'ouvrir, ouais.
Ouais, on va l'ouvrir tout de suite dans le bloc suivant. On va parler qui a le beau nom de Panique au Village. Bah oui, c'est un peu la panique au village là pour le moment. Il y a plein de choses qui se passent.
On n'a pas nous invité du coup d'ailleurs.
Non, c'est clair. Parce que déjà il y a des sales punks à chiens en fait qui viennent et qui bousculent tout à fait la manière de faire de l'agriculture, etc. Donc on va en parler simplement avec plein de chouettes personnages. Et je serai avec Charline qui vient d'arriver ici en studio et qui peut s'installer. On va parler donc ensemble avec ici le village des possibles hein, où toutes les associations qui partagent un espace ici à Esperanza pour parler un peu de ce qu'elles font au quotidien, etc. Et ils seront là pour un peu discuter tous ensemble d'un projet qui est en fait... Voilà, c'est très chouette parce que là, ils viennent d'arriver, on discute un peu, on sent qu'il n'y a pas vraiment de tension, tout le monde est assez d'accord et c'est une sorte de projet commun qui se crée tous ensemble pour imaginer des transitions dans les manières de se nourrir.
Tiens, on se demande pourquoi on fait des débats en fait à Esperanza.
Oui, mais
tout le monde est d'accord.
Tout le monde est d'accord et je pense que nos éditeurs le sont peut-être aussi, mais c'est toujours intéressant aussi de définir les choses et de... Après, ça pourrait être intéressant pour une autre année hein, d'inviter un représentant de Carrefour ou je sais pas, dans ce genre de débat.
Si, ouais,
ça serait intéressant. Moi, j'ai entendu fond, le mot quoi. Carrefour, donc j'ai bugué 30 secondes, mais oui, si, après.
Pourquoi tu pensais le truc avec les lumières vertes et rouges là.
Ah, c'est ça.
Non, mais ce serait marrant, mais alors ils payent leur place, hein, ceux-là, on les invite pas, évidemment.
Ah oui, c'est clair.
Bien sûr,
clair.
Tu m'étonnes.
Comment on bitch comme ça là.
Ouais, ce qui est cool vraiment.
Écoute, on peut être ici complètement anticapitaliste et on peut le revendiquer haut et fort et le hurler au micro. Donc on va pas se gêner ici.
Oh bah, ceux qui ont pas compris qu'on l'était. Et... Hein. Ce qui est cool aussi à rappeler justement,
une sale bande de hippies.
tu parlais des réseaux sociaux, etc. Ouais, et des auditeurs qui, ceux qui écoutent Radio Esperanza, sont peut-être. Avant de commencer, déjà convaincu entre guillemets par les choses qu'on propose, justement, c'est l'occasion de leur rappeler que Radio Esperanza, c'est sur le 106.2 FM, c'est en direct, c'est sur les réseaux sociaux, etc. Mais donc, n'hésitez pas à vraiment aller sur le site de Radio Esperanza ou sur le Facebook de Radio Esperanza à choper les moments qui vous intéressent. Tous les extraits sont mis podcastés juste après les émissions. N'hésitez pas à les retransmettre, vous, chacun, sur vos réseaux sociaux. Alors, si vous êtes convaincu, tant mieux, mais dans vos copains, comme dans les nôtres, il y en a qui ne le sont pas encore. Et c'est comme ça aussi que les informations vont faire boule de neige et vont se partager loin, même dans le monde.
Et puis après, il y a toujours évidemment des dissidents. C'est des gens qui s'estiment trop... Enfin, pas assez...
Engagés
radicaux dans leur engagement. Ouais. Et puis d'autres personnes qui trouvent que d'autres sont beaucoup trop radicaux, c'est des intégristes, etc. Et voilà, et où est-ce qu'on situe l'acceptable, l'inacceptable, etc. Ça, on en parlera aussi.
Propos d'inacceptable, juste une petite info.
Oui, oui.
On n'a pas un petit générique de Flash spécial.
Ah non, c'est pas
non,
ça.
Donc vous le savez peut-être, oui. Enfin, vous le savez sûrement qu'il y a de nouveau des migrants qui sont au parc Maximilien et qui, en fait, sont expulsés
actuellement
du parc Maximilien.
Donc là, maintenant, tout de suite, quand on se parle.
Oui, enfin, je ne sais pas si ça va
en
tout cas. Donc, en fait, les autorités, donc la police de Bruxelles, capitale XL, pour ne pas la nommer, hein, interdit les tentes et les couvertures sur le site. Et,
oui, parce qu'avoir chaud, c'est un truc de bourgeois, de toute façon.
Oui, de toute façon, on est en été.
Voilà.
Et voilà, et donc il y en a beaucoup qui ont été expulsés par la même occasion. Et ça, on aura le temps d'en parler aussi durant les heures qui vont suivre, puisqu'on se verra.
Oui, parce qu'on dit ça sous le couvert du rire, évidemment.
Non, là, je rigolais pas.
Oui, non, non, mais genre, il fait chaud, pas besoin de couverture. C'est comme, comme la jungle qui n'existe plus, mais en fait, qui réexiste à Calais. Hein. Ou de nouveau, si jamais tu passes à côté et que t'es sympa, t'as envie de donner une bouteille d'eau, si jamais un flic te voit, il peut te foutre une amende, quoi. Ça va jusque-là, quoi. Donc, en fait, les personnes qui vont pas bien, tu peux même plus les aider. C'est complètement ouf de se dire qu'on empêche les gens de leur ramener des couvertures.
Enfin, après, tu sais, par rapport à ça, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, hein. Désobéissez.
Oui. Désobéissance totale, surtout quand c'est face à la grosse connerie, quoi.
Voilà.
Mais avec toi, on va obéir avec Charline, parce que dans les deux heures que vous nous proposez, vous nous amenez quand même plein d'initiatives, des possibilités, des solutions pour vivre autrement.
Je dirais pas obéir, hein.
Ça, c'est parce que les gens ne connaissent pas, mais s'ils te connaissaient, ils auraient envie de t'obéir.
Bim.
Voilà.
Ça, c'est fait. Tu peux aller sur ta liste.
et toi, alors, Charline, c'est quelque chose que tu pratiques. Donc, c'est ta deuxième année à Radio Esperanza, du coup. C'est quelque chose que tu pratiques dans ta vie aussi personnelle, d'essayer de manger autrement, de consommer différemment.
Ah oui, oui. On essaye de faire un maximum. Nous, c'est surtout par rapport au local, du fait que je suis dans un village où il y a quelques fermes. Donc, c'est... Du fait que mes parents sont forts là-dedans, essayer de prendre un maximum local, bio, etc. Donc oui, ça, c'est ce qui m'a attirée aussi vers le Festival Esperanza.
Bon.
Écoute.
C'est dans 3 minutes.
Voilà. Hein. Ouais.
On les laisse, Debs ?
On y va.
On va se passer un petite musique. Comme ça, on peut s'installer tranquillement et faire rentrer nos invités.
Et nous laisser sortir.
Et vous laisser sortir. Parfait.
Radio.esperanza.be.
Esperanza part en live.
Ah oui, non, mais alors là, Esperanza part en vrille totale.
Non, en live.
Non, mais c'est vrai. Non, comment ça, en live? Ils partent totalement en vrille.
En live, oh, Esperanza part en live.
Ils sont complètement barrés, quoi.
En live.
C'est toujours mieux que ça part en couille.